Alors, avant de continuer, je vais juste reprendre brièvement ce que nous avons dit ce matin de Thérèse comme témoin de la sainteté et donc témoin de la justice de Dieu. Donc vous avez pu noter ce matin que dans la vie de Thérèse, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est l'ordinaire de 24 années vécu dans l'amour. Voilà ce qui est extraordinaire. Et vous avez pu noter que c'est un amour qui va en grandissant, en s'approfondissant, en se purifiant, au fil des étapes d'une vie humaine. Hein, une enfant, adolescente, jeune fille, religieuse. C'est-à-dire que la croissance spirituelle de Thérèse, mais comme de tout chrétien, elle va de pair avec la croissance humaine. Et les événements humain de cette croissance, rappelez-vous l'épisode là de cette nuit de Noël. Enfin, dans son expérience humaine, c'est là qu'est le lieu de sa conversion chrétienne. Donc ça veut dire que l'histoire de Thérèse, mais la nôtre, est importante, enfin elle fait partie de notre croissance spirituelle. Si on disait « je quitte le monde pour enfin devenir saint à l'extérieur du monde », quelque chose qui n'est pas juste. Alors on va le voir aujourd'hui dans la petite rétrospective que l'on va faire de la Bible. Donc la vie avec ses accidents, avec ses stades successifs, n'est pas un obstacle pour la croissance spirituelle. Au contraire, la croissance humaine du chrétien doit contribuer à le rendre plus réceptif toujours à la révélation de Dieu. Et les dépassements humains que Thérèse a été amenée à faire sont l'expression de sa foi grandissante en Dieu et de son amour pour lui. Alors, ça veut dire en langage un peu plus savant que notre vie humaine est le premier lieu de notre conversion et on peut dire que notre vie humaine dans tous ses aspects est un lieu théologal, pas un lieu dont il faudrait s'échapper. Alors, on a vu rapidement que ça s'est vérifié au Carmel, où tous les aspects d'une vie de communauté, que nous connaissons tous dans nos familles, sont les lieux et le temps de croître dans l'amour de Dieu. Alors toujours en nous rappelant que cette ascension, si on peut prendre une image, cette ascension vers la sainteté est une grâce totale qui vient de Dieu et qui vient des mérites du Christ dans sa Pâque. Ce ne sont pas les qualités humaines de Thérèse qui font d'elle une sainte. C'est les mérites du Christ, comme pour nous, hein, qui la font sainte. Donc, elle est docteur de l'Église, on l'a vu ce matin, sans bagage théologique. Sa théologie va lui être révélée. Elle est patronne des missions, alors qu'elle est restée entre quatre murs dans un petit Carmel normand. Oui, ben, je ne sais pas quoi vous dire, elle est pleine de contrastes, comme nous tous. Alors, je reviens maintenant à un aspect un peu plus de recul. Ça ne va plus être un témoignage de Thérèse ou d'un autre. Hein? Mais j'essaie de, non pas de prendre de la hauteur, mais enfin de prendre un peu de recul. Alors, j'espère que je ne vais pas vous endormir, c'est une mauvaise heure, mais je tâcherai de l'émailler de quelques petits exemples. Bon, si vous êtes ici, je pense, c'est pas pour apprendre des choses nouvelles, parce que votre réflexion, vos lectures, votre expérience se chargent tous les jours de vous faire approfondir votre credo, mais nous sommes tous ici aujourd'hui pour ensemble reformuler peut-être chacun notre credo. Et si vous voulez, le béaba, enfin le cœur de la révélation chrétienne, je le résumerai dans cette citation de saint Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Vous voyez, quand saint Paul dit ça, il a résumé ce qu'est la vie chrétienne. Le chrétien réalise que Dieu l'aime et a envoyé son Fils pour nous, par amour, et dans le don de l'Esprit, il nous fait participer à la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Nous avions ici, je l'ai connu, un vert veuf qui, aux 20 et 120 ans, 14, il avait été un des premiers pilotes d'avion. Il est rentré au monastère à 60 ans passés. Il m'a dit qu'il avait donné prêtre. L'abbé de l'époque, l'abbé Gramont, lui avait demandé d'aller célébrer une messe dans un petit village voisin un dimanche. Et il m'a dit avec sa grosse voix, j'ai plus une fois sur l'amour de Dieu, j'ai tout dit. Il n'avait plus rien à ajouter. Donc, c'était plus question de lui demander de faire une autre homélie sur l'amour de Dieu, parce qu'il aurait été obligé de reprendre son papier. Bon, c'est le même qui un jour, vous voyez ce qu'est le mouvement charismatique, qui aura un jour, il y a 40 ans de ça, nous avons une prière charismatique dans notre église, c'est rare. Et au cours de cette prière, un grand monsieur, je me souviens, s'est levé et tout fort a dit « Jésus, je t'aime ». Ce vieux frère, avec son éducation, il a dit tout fort et on l'a très bien entendu « Jésus, je t'aime, n'importe quoi ». Vous voyez pourquoi il a dit ça ? Parce que « Jésus, je t'aime », on ne peut pas dire ça en public, son âge avec son éducation. On ne peut dire « j'aime Jésus ». Mais pour lui, c'était déplacé. Non pas qu'il n'aimait pas Jésus, hein. L'expression pour lui était irrecevable dans le cadre d'une église. Tant, c'est vraiment le cœur, le noyau de notre foi. Ces deux anecdotes, c'est pour vous situer notre propos. Parce que même si ce que je vais vous dire est un peu excessif, hein, vous me pardonnerez, le temps n'est pas si éloigné que cela, où l'on présentait Dieu comme Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est notre credo, hein, Maître de l'histoire, Grand Ordonnateur de la marche du cosmos, un juge impartial, et excuse-moi, mais on n'est pas loin. On peut, comme disait Voltaire, hein, je ne peux pas imaginer que cette horloge marche sans un horloger. Voltaire, en disant ça, n'est pas chrétien. Et donc, quand on présente, et c'est vrai, mais quand on présente Dieu comme Tout-Puissant, Infini, juge impartial, attention, risque hein, d'oublier que notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Il est à nous dans Jésus. Donc, avec une conception d'un Dieu tout-puissant auquel on n'a pas tellement accès, bien, on le craignait plus qu'on lui faisait confiance, et à la limite, on le vénérait davantage qu'on l'aimait. Or, le cœur de la révélation biblique, précisément, Dieu nous aime, et je dis bien le cœur de la révélation biblique, car l'œuvre de Dieu, depuis la création jusqu'à la rédemption, en passant par l'élection du peuple d'Israël, n'est qu'une œuvre d'amour. Pas l'amour des choses, l'amour de l'homme, l'image parfaite de Dieu, donc un amour personnel, et un amour, c'est une image, mais un amour paternel. Une autre remarque importante, l'amour, ce n'est pas un objet d'étude, or une expérience. Et c'est cette expérience qui peut donner lieu, mais après coup, à une réflexion. L'élaboration de certaines constantes dans le processus vivant qu'est la naissance, la croissance de l'amour. Il y a des traités de l'amour de Dieu, saint François de Sales par exemple, qui sont très beaux, très précieux, mais ils sont d'abord une invitation à entrer soi-même personnellement dans ce mystère d'alliance de Dieu avec nous. Ce ne sont pas à proprement parler des études systématiques sur ce sujet. Notre frère centenaire dont je vous parlais tout à l'heure, il était de son temps, peut-être il en restait au moins dans l'expression à une approche conceptuelle de l'amour de Dieu pour l'homme et de l'amour de l'homme pour Dieu. Ça veut dire qu'on n'aura jamais fini de connaître Dieu, alors je prends le mot connaître ici dans le sens biblique, donc connu Ève. Ève n'avait pas connu Marie, donc c'est un sens très fort, hein. C'est pas une connaissance cérébrale. Donc on n'aura jamais fini d'écouter Dieu, jamais fini de se donner à lui. Le connaître, ce sera toujours faire appel à la mémoire de notre relation avec lui. Ce sera toujours un appel à avoir conscience que nous avons aujourd'hui de sa présence que l'expérience de notre engagement envers lui. Je veux dire là, c'est qu'on ne peut pas se pencher sur le mystère de l'amour de Dieu sans un acte de foi et sans une vie de foi. Je t'invite ici tout simplement, mais pas maintenant dans l'immédiat, mais dans les heures qui viendront, faire retour sur votre propre expérience de votre relation à Dieu. Pour nous aider à ce retour, à cette mémoire de notre expérience de Dieu, je t'invite à revisiter la Bible, à grands pas bien sûr, parce que ça serait long, avec cette clé. Dire que la Bible est l'histoire d'Israël dans sa relation avec Dieu. C'est le témoignage d'une expérience vivante. Le témoignage de la rencontre de Dieu avec son peuple. Ça passe par la relation de Dieu avec les personnes qui constituent ce peuple. Que la création du monde, même si vous le savez bien, ça ne s'est pas passé comme le raconte la Genèse, mais c'est encore plus vrai que si on avait photographié, hein. La création du monde est l'œuvre de l'amour de Dieu. La création de l'homme et la femme sont le sommet de cette création. Donc, dès les premières pages de la Bible, se dessine cette grande histoire d'amour qui va, comment dirais-je, être comme approfondie par le drame qui très vite vient dans le début de la Bible, le drame du péché d'Adam. Bien que ce drame va conduire Dieu à aller jusqu'au bout et on pourrait dire à parfaire sa création en promettant à l'homme de le restaurer dans sa dignité première d'enfant de Dieu. Il ne va pas empêcher l'homme de continuer à pécher, à tel point que Dieu, à un moment donné, c'est le déluge, hein, la Bible dit qu'il se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais le déluge n'est pas une fin, au contraire, c'est un redépart, puisqu'à partir du petit reste de la famille de Noé, il va y avoir comme une recréation et une réalliance avec l'arc-en-ciel qui renouvelle, oui, effectivement, l'alliance des tout débuts où Dieu avait promis que l'homme t'écrasera la tête, dit-il au dragon. Il y a comme une amorce d'alliance. Donc avec l'arc-en-ciel et l'alliance de Noé, ce que dit la Genèse, plus jamais, dit Dieu, je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Puis on arrive à Abraham, et là commence l'histoire du peuple élu. Donc, là, on n'est plus dans la généralité de la création. D'ailleurs, historiquement, c'est à partir, on peut dire, d'Abraham que l'on commence à voir dans l'histoire de l'humanité des indices historiques, j'allais dire, scientifiques. Avant, on n'est pas du tout dans la science, hein. On est dans un autre ordre. Donc Dieu choisit un homme, Abraham, et le destine à devenir le père d'une multitude. Notez que la relation de Dieu avec Abraham est d'une profonde intimité. On le voit quand le Seigneur apparaît au patriarche, aux chaînes de Mambré, où là, Dieu promet à Abraham, alors Dieu c'est Dieu, c'est les trois personnages, c'est... On est dans l'imprécision alors, dans la Bible. Hein. On parle des trois personnages et on parle de Dieu en même temps. Mais il y a une promesse qui est faite à Abraham. À la date où je reviendrai l'an prochain, Sarah aura un fils. Vous voyez, c'est quand même une relation très, très personnelle. Puis c'est aussitôt cette rencontre des trois personnages avec Abraham qu'il y a ce dialogue très beau du Seigneur avec Abraham au sujet donc de Sodome et de Gomorre, où là il y a comme un débat, dommage qu'Abraham soit resté. Vous voyez ce débat? S'il reste 50 juste, 40, 30, 20, 10, il n'a pas osé aller plus loin. Il aurait été plus loin, je crois qu'il aurait été gagnant. Donc Abraham, Isaac, Jacob héritent de cette promesse qui, bien sûr, au-delà de la terre de Canaan, s'étend à toute l'humanité, à l'univers entier. Seul l'amour infini et inconditionnel de Dieu pourra accomplir ce qu'il a promis. Vous voyez que Dieu, il entre vraiment dans une histoire d'homme, que Dieu est un grand pédagogue, patient, toujours prêt à pardonner, bouclier pour la veuve et l'orphelin, juge impartial, médecin, ami, enfin tout, tout. La descendance des patriarches fondateurs, qui va devenir l'histoire de tout un peuple, pensez à des épisodes comme la vente de Joseph par ses 10 frères, un drame, mais qui, dans le dessein de Dieu, va être converti en bien, puisque c'est à partir de cette vente de Joseph que le clan de Jacob va être sauvé, et que, malgré l'esclavage des Hébreux en Égypte, il va y avoir la grande délivrance avec la traversée de la mer Rouge, qui est, disons, l'événement fondateur de l'alliance que Dieu va sceller avec Moïse sur le mont Sinaï. Ce que je voudrais vous faire sentir ici, c'est que, voyez, Dieu entre vraiment en relation avec l'homme et il épouse, on peut dire, tous les éléments d'une histoire humaine. Il ne fait pas ça de haut en décidant les choses, non. Et notez déjà que c'est le mouvement même de la venue de Jésus dans le monde. Hein. Dieu aurait, finalement, il aurait pu décider du ciel de dire « ça y est, je sauve les hommes » et il n'a pas choisi ce chemin. Vous voyez son fils dans le monde et vous savez la suite. Humainement, c'est un échec, mais c'est de cet abaissement et de cet échec qu'il va y avoir Pâques. Donc tout au long de la constitution du peuple en nation, avec les juges, avec les prophètes, avec les rois, Dieu se manifeste au milieu des siens, comme un père. Et, alors, dans la Bible, c'est très très fréquent, le peuple est invité à toujours se souvenir, s'émerveiller des hauts faits, des gestes de Dieu à son égard. Et à elle, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, pays de villes grandes et bonnes que tu n'as pas bâties, de maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que tu n'y as pas mises, de citernes toutes prêtes que tu n'as pas creusées, de vignes et d'oliviers que tu n'as pas plantées, alors, quand tu auras mangé à satiété, garde-toi bien d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Seigneur ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. Livre du Deutéronome au chapitre 6e, 4 à 13. Garde-toi d'oublier, hein. Donc notre foi, elle s'enracine, disons, dans une expérience dont il faut toujours faire mémoire. Même si j'y reviens demain, faire mémoire, ça vous remet tout de suite en Eucharistie. Faire mémoire de la scène. Même que les Juifs font mémoire de la Pâque. Même mouvement, hein. David, le roi David, va ouvrir plus directement ce l'on peut appeler l'ère messianique, puisque Jésus sera de sa descendance, Joseph. Jésus sera le roi tant attendu de la Jérusalem céleste. Je reviens à David, sa relation avec Dieu acquiert une intimité, une confiance qui, sans éliminer, vous le savez mieux que moi, les écarts et les refus du roi, cette intimité témoigne de la grande proximité de David avec son Dieu. Rappelez-vous quand David commet le gros péché de faire tuer Ouri le Hittite, dont il a pris la femme. C'est pas beau, hein. David est l'ancêtre de Jésus. Hein. C'est pas un arbre généalogique scientifique comme les nôtres, hein, mais important. Donc David, qui le prophète révèle son péché, voici ce qu'il dit. « Je suis dans une grande angoisse », confie David au prophète. Et quoique le prophète lui a donné à choisir comme punition de tomber entre les mains des hommes ou de tomber entre les mains de Dieu, David choisit plutôt de tomber entre les mains de Dieu, car, dit-il, sa miséricorde est grande. Si je tombe entre les mains des hommes, leur miséricorde ne sera certainement pas aussi grande. Ça veut dire que David a une immense confiance en son Dieu, même s'il se sait, lui, pécheur et infidèle. Salomon, le fils de David, et qui est la mère de Salomon, hein, Dieu. Salomon, plus politique que David, va commencer son règne dans la même intimité avec Dieu. Bien sûr, il va pactiser avec les religions étrangères, qui va amener Dieu à lui retirer une partie du royaume, c'est la division entre là et... Donc l'histoire du peuple élu sera par la suite une succession d'infidélités à Dieu, de demandes de pardon, une succession de châtiments, par exemple des défaites, un exil, une succession de châtiments et d'absolution, deux exils et le retour d'un petit reste, la destruction du temple, son relèvement, l'occupation du pays par des puissances étrangères, dont ultimement Rome, puis l'apparition de Jésus. Vous voyez, c'est vraiment une histoire très, très humaine. Et c'est dans cette histoire très humaine que s'élabore donc le mystère du salut. Les prophètes sans cesse rappelleront au peuple que Dieu est fidèle à son alliance, qu'il lui enverra un libérateur. Mais, et ça les juifs l'entendront, enfin ne l'entendront pas, mais les prophètes le diront, ce libérateur ne sera pas un leader puissant, vengeur, politique. Il aura plutôt le serviteur souffrant, opprimé par les hommes, mais exalté par Dieu, qui établira son règne, un règne de paix et de justice sur le monde. Il y a la prophétie d'Isaïe au chapitre 52. Voici que mon serviteur réussira. Il sera placé, élevé, exalté à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, de point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme, et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. De même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait jamais été raconté, ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. C'est-à-dire que Jésus, mais ça c'est un regard de foi qui peut le dire, apparaîtra comme l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais évidemment troublera, scandalisera tous ceux qui espéraient un messie politique, un héros national. Parce que tout au long de l'histoire d'Israël, tout au long de leur attente, de son attente, s'était développé un sentiment national que l'on qualifierait aujourd'hui, mais c'est anachronique de dire ça, mais enfin tant pis, on dirait aujourd'hui un sentiment nationaliste, nationalisme identitaire. Encore une fois, c'est anachronique de dire ça, mais ça veut dire que dans la pensée juive, marquée par concision, ce rite excessivement important pour les juifs, il met dans une application rigoureuse, combien il y avait de lois dans la règle, je crois que c'était 500, inapplicable. Donc on en était venu, si vous voulez, à réduire le messianisme à une espérance politique d'une restauration de l'État d'Israël, enfin de l'État d'Israël, royaume d'Israël, et que dans l'élite juive, l'élite religieuse, on en était arrivé à une forme de sectarisme religieux stérile, un moralisme insupportable pour les petites gens. Alors il ne faut pas enfermer tout le peuple d'Israël dans ce courant sectaire et moralisant, mais c'est tout de même le climat ambiant qui modelait une partie importante de l'élite religieuse du temps de Jésus. Rappelez-vous par exemple la parabole du pharisien et du publicain, symptomatique de cet état d'esprit. Luc au chapitre 18e. Donc le pharisien se présente comme un bon religieux, dire qu'il est parfait, mais il dit qu'il fait tout du mieux possible. Et le publicain à côté, lui, ne peut dire que « Prends pitié de moi, pécheur ». La conclusion de Jésus, c'est que c'est le publicain qui ressort du temple ou de la synagogue, qui ressort justifié et sauvé. Enfin, on y reviendra. Là. Et pensez aussi à l'épisode de la femme pécheresse qui est introduite dans la maison de Simon le pharisien. Il était invité à manger chez Simon, et donc Simon est scandalisé que Jésus se laisse toucher par cette femme pécheresse publique. Et la réponse de Jésus à Simon, « Simon, si je te déclare Les péchés de cette femme si nombreux ont été pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et encore à la parabole du fils prodigue, 15e de Saint Luc, qui développe toujours cette même révélation de l'amour de Dieu, source de notre salut, source de notre justification. La vie de Jésus ne se comprend que dans cette reconnaissance de l'amour infini de Dieu pour nous, et un amour infini qui s'est révélé dans une histoire concrète, l'histoire du peuple dans lequel Jésus est né. On ne peut pas rendre compte de la nativité de Jésus à Bethléem, de l'apprentissage de sa mission à Nazareth, de son ministère public pendant 3 ans, sa croix à Pâques, de l'ascension. On ne peut pas rendre compte de ce mystère du Christ si on ne l'inscrit pas dans le mystère de l'amour de Dieu qui s'est révélé au cours d'une histoire. Écoutons Jésus, par exemple, nous parler de son Père dans la parabole du bon pasteur, au chapitre 10e de Saint Jean. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Je me dessaisis de ma vie pour mes brebis. » On peut aussi lire le chapitre 17e de Saint Jean. Alors, quand on parle de l'amour du Père pour nous, encore une fois, ce n'est pas une conviction d'ordre intellectuel, c'est le fruit d'une expérience. L'expérience, elle nous est en quelque sorte donnée par une révélation qui va, en réponse, susciter en nous un acte de foi. D'où l'importance de faire mémoire de la longue expérience que nous avons chacun fait de notre relation à Dieu, de notre relation au Christ depuis, alors peut-être que nous allons nous en souvenir, depuis notre baptême, en passant par notre première communion, et à votre époque, je crois, notre communion. Vous ne parlez pas de profession de foi, mariage, du départ de vos enfants, quelquefois en monastère. C'est-à-dire que toute notre histoire est histoire sainte. Et il est bon de s'y référer, un peu comme on s'est référé assez rapidement à l'histoire de l'Alliance, il est bon de s'y référer pour arriver au point où nous en sommes aujourd'hui, faire le point, voir où nous en sommes, et puis ouvrir ce présent sur l'avenir qui nous viendra toujours de Dieu. Vous avez, parce que je vais m'arrêter là, si vous avez quelques éclaircissements à demander, je peux essayer. Dans le sens biblique, connaître. Ah ben dans le sens biblique, connaître, c'est la relation conjugale. Donc c'est très fort comme terme. Hein. C'est pas une connaissance cérébrale, intellectuelle, à partir de déduction, de logique. Connaître au sens d'amour fort. Et, enfin, ce qui est important, mais je fais comme Saint Jean, excusez-moi, je tourne.